you're talking while you're fast asleep. As I walk slowly from your house back in your room, remain the words I wanna say to you but couldn't leave my mouth. Does it come as a surprise? Language of averted eyes. Silence is what I do best. Still I hear it all, wasting time around my head. So I talk to myself instead.
Salut tout le monde.
Salut à tous, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de Onde Vagabonde, c'est notre 5e épisode si je compte bien. Ça fait plaisir hein, de revenir, etc., de retourner, parce que faut savoir qu'avec les filles, on n'était pas là depuis 2 mois.
Depuis décembre.
Ouais, depuis même novembre. Hein, on a tourné en novembre.
On a tourné en novembre. Et ben, ça fait longtemps.
Du coup, ça fait longtemps. Donc, on est contente de revenir. On espère que vous avez passé de bonnes fêtes, de bonnes vacances, que la reprise a été bonne. Parce que la reprise, ça fait un mois là depuis. Hein, on n'a pas tourné en janvier, mais ça fait un mois qu'on a repris. Ça a été un peu compliqué. C'est pour ça qu'il n'y avait pas d'épisode, etc. Que ce soit pour nous, les partiels, les vacances, la reprise des cours, bref.
Les stages.
Tout s'est enchaîné très vite. Et du coup, on est de retour pour vous jouer de mauvais tours. Mais du coup, comme d'habitude, je suis accompagnée, comme à l'accoutumée, de mes chers co-hosts, mes amis. Je vous présente plus maintenant. Hein.
Nous sommes les seuls, l'unique. Je me présente, je suis Axel.
Esther.
Gladys.
Donc, pour ce nouvel épisode, on s'est dit pourquoi pas parler d'une thématique qui nous concerne, nous, avec les filles, que ce soit Axel, Gladys et moi, et qui va concerner normalement Esther dans un an, Inch'Allah. On va parler de mon master, on va parler de Parcoursup, juste peut-être de ce qui est relié à l'idée de ce qu'on va faire plus tard, en général, tu vois, des études, de façon très très large, sans pour autant faire la même chose qu'on a fait les épisodes précédents, en parlant vraiment de thématiques spécifiques liées aux études. Donc j'espère que ça vous plaît, que le programme vous branche, les filles, je sais pas.
Écoute, on s'est mis d'accord là-dessus, de toute façon.
De toute façon, oui, voilà, on n'a plus trop le choix, là, je crois. Est-ce qu'on commencerait pas par parler de Parcoursup, parce que c'est un truc qui nous concerne, nous, toutes les quatre,
oui,
on a vécu.
C'est le premier aperçu qu'on aura avec ces plateformes, déjà.
Oui, non, mais c'est ça, c'était le premier aperçu, et du coup, peut-être parler de notre ressenti, parce qu'on est la deuxième génération à avoir vécu Parcoursup. Hein.
La deuxième.
Ouais. Donc on était un petit peu les cobayes de l'État, comme d'habitude.
Wow.
Donc parler un peu de ça et tout, de savoir si vous avez ressenti vous de la pression quand on a commencé à parler de Parcoursup et tout. On a commencé à parler en première, surtout en terminale, mais on a commencé à en parler en première. Du coup, comment vous l'avez vécu, vous, l'idée de Parcoursup? Parce que ça vous a fait peur, Parcoursup?
Ouais, parce qu'au début, je savais pas trop ce que je voulais faire à la fac. Et du coup, j'ai mis plein de choix différents parce que j'arrivais pas à me décider avant la fermeture
de la plateforme.
Ouais. Et du coup, j'avais un peu de stress par rapport à ça, mais je me suis dit, jusqu'au résultat, j'avais le temps de réfléchir un petit peu.
Ouais, je vois.
Du coup, la pression, elle est un peu... Elle s'est un peu atténuée.
Ouais, elle est redescendue.
Ouais.
Et toi, Esther, est-ce que t'as ressenti du stress quand on a commencé à parler de Parcoursup?
Oui, beaucoup. Mais en vrai, je savais déjà ce que je voulais faire. Donc, j'avais vraiment sélectionné toutes les facs où il y avait écrit sciences politiques ou sociologie, en fait. J'avais vraiment cliqué sur toutes ces facs-là.
Elle a fait toutes les facs de la France.
Nantes,
Bordeaux.
Exactement, c'est vraiment ce qui s'est passé en plus. Donc, j'avais juste hâte d'être prise en fac de sciences politiques. Enfin, j'avais sélectionné Lille, par contre. Mmh. Et Amiens, j'étais sûre d'être acceptée.
Ok.
Parce que ça, mon dossier était bien. Mais Lille, j'étais pas sûre parce que c'était trop loin. Et je sais que c'est aussi beaucoup par secteur, en fait. Vu que c'est dans le Nord-Pas-de-Calais, j'étais pas sûre que ça puisse passer, quoi. Donc, c'est ça qui me faisait un peu de peine, mais je savais que... Malheureusement, ça tomberait sur Amiens. Mais je suis contente d'être
ça, malheureusement.
Maintenant, je suis contente.
Et toi, Axel?
Ah bah oui, évidemment, beaucoup, beaucoup de stress. Parce que je stresse beaucoup, de manière générale. Mais le fait qu'il y ait une sélection, le fait qu'il y ait un enjeu derrière... Je savais déjà ce que je voulais faire. Je sais que j'allais faire plus du droit ou de la Sciences Po. Parce que... au revoir les autres sciences, parce que c'était pas mon domaine. Mais le fait de pas avoir ce que je voulais, le fait de pas avoir de place, même si Parcoursup, on le dira plus tard, ça laisse plus de possibilités que mon master. Ouais. Mais oui, je stressais. Surtout que à mon lycée, ils donnaient des séances particulières pour t'expliquer Parcoursup et pour t'aider à faire tes vœux aussi. Okay. Donc ça rajoutait une pression supplémentaire. Il y avait des heures de vie de classe dédiées à Parcoursup.
Ah non, on n'avait pas ça.
Mais nous aussi, hein, Jasmine, je te vois étonnée.
Tu parles de la vie de classe, là, on faisait rien, on était sur l'ordinateur.
Ah non, c'est de la vie de classe, on fait boucher les trous. Hein. Bref. Non. Ah. Et toi, Jasmine, quelle expérience de Parcoursup ?
Horrible.
Allez, hop, c'est dit.
Si on pouvait définir... Non, en vrai, c'est horrible parce que genre en mode, Parcoursup, c'était... Comme c'était flou et que personne ne savait comment ça fonctionnait, personne ne savait même juste les résultats que ça allait donner, genre c'était horrible parce que bah, toi-même... en stress parce que tu sais pas, tu vas voir un adulte, il fait bah moi non plus je sais pas, et du et coup oui, vous êtes là en mode on sait pas ensemble. Du coup...
C'est ça, même les profs ils nous disaient bah nous on sait pas comment ça fonctionne, ouais, on peut non, pas vous aider.
Le fait de centraliser, d'unifier un peu tout ça pour que ce soit plus simple, ok tu vois, mais je pense qu'il y a surtout stressant c'est l'idée que il faut être accepté quelque part et que tu vois les pourcentages sur la plateforme, tu vois les pourcentages, tu vois le nombre d'admis, tu vois ta place, mais ouais moi ça me faisait plus peur par rapport à l'idée de pas être accepté. Et en même temps, de ne pas savoir si c'est vraiment ce que je veux faire.
Parce que il y a ça aussi. C'est que tu te dis, c'est une voie que j'ai envie de faire maintenant, mais qui te dit que ce sera la voie que j'ai envie de faire plus tard aussi.
C'est ça. Et même encore aujourd'hui, je me pose la question. Hein. Okay. Même aujourd'hui, pour mon master, là, je me pose la question. Est-ce que la science politique, c'est vraiment la voie que je veux faire ?
Sur la section Parcoursup, j'ai eu un petit goût amer. C'est que je voulais absolument aller dans une licence de droit ou de Sciences Po à l'université de Lille, à la Cato de Lille. Okay. Une très bonne université, soit dit en passant. Et j'avais une amie qui n'avait pas de profil particulièrement Sciences Po du style, elle a fait que des maths, SVT, physique, enfin bref, que des trucs scientifiques purs, qui elle a été acceptée, alors que moi, ayant le profil parfait pour ça, et ayant fait une option droit, enfin des cours d'option droit au lycée, je ne l'ai pas eu. Je l'avoue.
En fait, Parcoursup, c'est un peu aléatoire.
C'est ça, non mais ouais.
C'est ça, c'est non seulement à l'époque, on ne savait pas, mes profs ne savaient pas. Je ne suis pas sûre qu'ils savent plus à l'heure actuelle. Mais en plus de ça, l'algorithme, il fait n'importe quoi.
Ouais, non mais ouais, il y a des gens qui se sont retrouvés genre en mode au fin fond de je ne sais quel pays, genre je ne sais quelle ville et tout. Ils étaient là en mode je ne sais même pas où c'est, genre en mode...
Non mais il y en a qui se retrouvent à l'autre bout de la France, mais regarde Céphis qui vient du Sud.
Ouais, non mais ouais, c'est ça, genre Céphis qui vient du Sud, elle s'est retrouvée à Amiens. Alors qu'elle vient de l'Ardèche. Qu'est-ce que tu fais là, Céphise ?
Alors que quand tu demandes juste Lille, on te dit non.
Alors que nous, un petit. Genre, on vit dans le coin, quoi. On est à une heure de Lille. Hein.
Ouais,
non,
alors.
Non, tu vas pas à Lille.
Maintenant, on te dit, ouais, si tu demandes ça, etc., il y a moyen, il y a forcément moyen que tu sois accepté parce que c'est pas loin, parce que ça reste des secteurs géographiques et tout.
Bah, Amiens.
Ouais, non, mais ouais, c'est ça. Après, moi, je me voyais. Je t'avoue, quand je fais un peu comme. Enfin, genre, j'ai un peu mis. Non pas tout et n'importe quoi.
Mais presque.
Mais presque. C'est quand même dans le domaine des lettres et de l'humanité, etc. Non mais j'avais mis un peu de tout, tu vois. BTS, nanana.
Genre, oh ouais.
Voilà quoi, on savait pas trop quoi.
Une belle salade de fruits.
Exactement. Et du coup, tu sais, on recevait les trucs au fur et à mesure, tu sais, où tu voyais où t'étais, comment, t'étais acceptée. Et j'étais là en mode, ah, c'est fou quand même, hein. Genre en mode, je suis pas acceptée là à Lille, mais je suis acceptée à Amiens, tu vois. Alors que j'ai des potes, ils ont le même profil que moi, c'est la même chose, genre, et ils ont été acceptés à Lille, tu vois.
Ouais, si tu comprends pas.
Donc, et ça, je sais même pas comment l'expliquer. Genre, je sais même pas comment. Je sais même pas si les profs savent comment expliquer ça, tu vois.
Et
genre,
en mode, même si on peut l'expliquer par l'algorithme, on comprend pas comment l'algorithme met tel ou tel en avant de tel profil, et comment, autre que l'algorithme, comment les jurys. Directeur ou autre, décide de prendre telle ou telle personne.
Faudrait qu'ils expliquent ça clairement, genre pour...
Genre un souci de transparence, ouais, un peu. Sachant que c'est un outil du gouvernement, pour moi, c'est même pas... Enfin, ça devrait même pas être un critère à la transparence, ça devrait être une obligation, en fait.
Mais à chaque refus, ils devraient mettre les raisons pour lesquelles ils ont...
Ouais, il y a ça aussi.
Oh bon, ça ferait mal aussi, je pense, mais...
Mais comme ça, tu sais... pas ce qui va pas, mais genre... Pourquoi t'as pas été accepté ?
Les lettres de motivation Parcoursup. On en parle.
J'en ai faites pour tout. Elles étaient trop déterres.
Un copier-coller du même format.
Eh,
J'ai pas cherché plus loin.
Non, mais vous vous souvenez de l'époque où il y avait la rumeur ou la polémique d'une fille qui avait mis une recette de gâteau russe comme lettre de motivation et qui a été acceptée dans une université. En fait, c'est l'histoire, c'est une fille qui a mis un vœu d'une université comme lettre de motivation. Elle avait fait ça pour dénoncer un peu le système. Elle avait mis une recette de gâteau, mais qui était écrite en russe.
Ok.
Et au final, elle a été acceptée dans l'école.
Est-ce qu'ils les lisent vraiment?
Bah du coup, non. C'est ça, parce que je pense que s'ils avaient lu une recette de gâteau en russe, ils l'ont...
Mais
non, mais si, il y a eu cette rumeur-là, et c'était vrai, parce que ça a été un petit peu médiatisé, presque passé sous silence. Mm-hmm. Et ça a existé, je me souviens de ça.
Mais comment? Mais c'est pas eux qui nous disaient les premiers à dire « Ouais, on lit les lettres de motivation et tout, nan,
oui, bon, genre, après, entre ce qu'on lit et ce qu'on
fait... Après, je pense
fait...
pas qu'ils liront des centaines de lettres...
Ouais, c'est ça.
Les motivations... Je pense que c'est surtout par rapport aux notes.
Ah, c'est ça.
C'est tout, en fait.
Il peut y avoir un algorithme qui filtre en fonction des notes que tu as eues.
Et encore.
Que... Et encore, parce que je pense qu'il y a non seulement les notes, et puis aussi le quota de boursiers respecté.
Il y avait quoi d'autre aussi, genre sur Parcoursup en soi? Parce qu'il fallait mettre la lettre de motivation.
Il y avait des engagements aussi.
Ouais, les engagements étudiants.
Enfin, vous m'apprenez de nouvelles choses, là.
Non, mais ça, t'avais une rubrique où tu pouvais mettre des trucs qui valorisent ton dossier. Et c'était le moment où on te disait « Travaille, va dans une asso, fais des activités, montre que tu t'es engagé quelque part. » Je sais que moi, j'avais fait cette technique. Je m'étais un petit peu engagée à la Croix-Rouge pour faire de la distribution de denrées alimentaires. Et j'avais fait ça. J'avais passé des diplômes, vraiment. J'étais à fond là-dedans. Ah ouais, ouais, ouais.
Moi, j'avais rien comme expérience, hein.
Après, les diplômes, je les avais passés avec le lycée, donc aussi. Mais oui, mais les profs étaient aussi à fond là-dessus en disant oui, mettez des trucs là, dans cette rubrique-là, ça pourrait peut-être vous aider.
Mais d'ailleurs, j'ai une question. Genre, par rapport à la pression que les profs mettaient ou pas, ou même par rapport à l'aide des profs et tout, comment est-ce que vous avez trouvé l'intervention un peu des profs genre sur le sujet de Parcoursup? Est-ce que ça a été des soutiens? Est-ce qu'ils vous ont accompagné? Enfin, comment est-ce que vous avez perçu ça?
En vrai, moi, il n'y avait pas trop d'accompagnement. Enfin, on pouvait leur poser des questions, mais ils n'étaient pas à fond.
Très au courant
de ce que je me
plus.
Souviens, parce que ce n'est pas très net. Dans
Moi, vu qu'il y avait des heures pour ça, c'était chacun avait son ordinateur dans une salle informatique et la prof passait d'élève en élève pour vérifier que tout allait bien ou alors faire telle chose. Donc, il y avait un peu plus d'accompagnement. Mais tu sentais qu'avec cet accompagnement-là, ça mettait une petite pression aussi en me disant bah, ça, si on nous aide autant, c'est que c'est important.
Je pense, en tout cas, avoir ressenti moins de stress vis-à-vis de Parcoursup que là, vis-à-vis de mon master. Genre là, je suis en full stress vis-à-vis de mon master, alors que en soi, Parcoursup, je me rappelle pas avoir senti autant de stress. En fait, parce que, déjà, je savais pas ce que je voulais faire, et du coup, c'était mon père qui m'a dit de faire Sciences Po, parce qu'il m'avait dit que c'était assez ouvert comme discipline, et en soi, il avait pas tort, tu vois. Mais j'étais surtout, ça me faisait peur, déjà, et ça, en vrai, c'est, je pense, une peur collective en soi. Chacun a ce degré de peur à certains niveaux, mais l'idée de trouver sa voie, etc. En fait, de savoir faire, savoir ce que tu veux faire. Et en soi, la licence, t'as une chance quand même que ce soit assez ouvert pour qu'il y ait des trucs qui t'intéressent, tu vois.
Oui.
Donc, c'était ça qui me faisait peur, mais ça, du coup, c'est une peur collective. Mais j'avais pas, en tout cas, je pense pas avoir ressenti plus de stress que là, par exemple. J'avais peur aussi, parce que comme c'était tout nouveau, mais ça c'était juste lié à la vie étudiante en général, c'était pas que lié à Parcoursup, c'était ce truc-là de, genre ça va faire peur d'arriver dans un nouvel endroit et de s'éloigner de ses potes, tu vois. En mode, vu que la plupart de mes potes sont à Lille, en tout cas la plupart de mes potes du lycée sont à Lille, il y avait ce truc-là aussi de, ça me faisait peur vis-à-vis des choix dans lesquels j'allais être acceptée. Je me disais, si je vais être acceptée à Lille, mais c'est une dinguerie, je vais faire des trucs avec mes potes, on se verra tous les jours, nanana. Et du coup c'était ça aussi qui me faisait peur. Mais je crois pas que la plateforme me faisait... Enfin, m'effrayait. C'est que quand j'ai commencé à voir les pourcentages et les chiffres.
Ah, les pourcentages. Les pourcentages. On en parlera des pourcentages de mon master, là.
Genre en mode... les classements, là.
Ah, les classements. Ah oui, les classements de classe.
Vous voyez, vous n'êtes pas encore accepté. Vous êtes à la place 350. Et là, genre, il y a 1400 personnes derrière toi, tu vois.
C'est ça, tu voyais
ça, ça me faisait peur.
C'est telle place... sur une liste de tel nombre de personnes, il y a combien de personnes que t'es déjà acceptées.
Ouais, non mais c'est ça.
Tu vois tes places, t'es comme ça va revenir cette année.
Et bien que j'avais mis un peu tout et n'importe quoi, il y avait des trucs où je voulais pas me retrouver. Hein. BTS à Roubaix. J'étais pas sûre vraiment que je voulais me retrouver à Roubaix. Et toi Esther, est-ce que t'as...
ressenti du stress. Par rapport à l'accompagnement des profs, c'est vrai qu'il y avait pas trop d'accompagnement et tout. Après, j'en avais pas forcément besoin. non plus parce que je savais que je voulais faire sociaux ou sciences politiques et j'avais vraiment sélectionné tout ce qui était en rapport avec ça. Mais je trouve que les profs, ils n'étaient pas... Et c'était pas vraiment une aide. Genre. Enfin, après, c'était vraiment...
c'était pas... Notre ça servait à rien, quoi. Mais bon, c'était
elle
là, quoi.
C'était particulière, cette dame. Déjà, elle était hyper décourageante. Elle m'avait dit, moi, je te verrais bien assistante sociale. Ouais.
Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-métier. Hein.
Mais vraiment, sachant que je t'ai précisé que vraiment, il n'y a aucun mépris pour les assistantes sociales. Enfin, c'est tellement logique que voilà, quoi. Mm-hmm. En fait, ce qui me faisait rire, c'était le fait qu'elle savait très bien que c'est pas ce que je voulais, mais qu'elle insistait. Et justement, je trouvais que le fait d'insister comme ça et le fait de me souhaiter d'être assistante sociale parce qu'elle me minimisait, tu vois, mm-hmm. c'est là que... C'est en ça qu'il y avait un mépris pour ce métier-là, tu vois, en mode... t'es pas assez bonne pour aller dans ça, donc sois assistante sociale. Mmh. Enfin, c'est pas un recyclage, en fait. C'est trop bizarre de... Mais ça va, genre, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Genre, j'étais acceptée. Ça va plutôt vite et tout. En plus, il y avait sociaux qui m'avaient acceptée bien avant. Ouais. Juste, ce qui me stressait, c'était quand tu devais... dire dans les je sais pas combien de jours est-ce que tu veux ou pas.
Ouais, ça c'était stressant.
Il fallait pas bloquer les autres.
Ouais, mais
ça,
oui,
les autres...
mais ouais, oui. Et tu savais pas, genre sociaux ils étaient là, oui on te prend, bon tu veux ou pas, alors que sociaux politiques m'avait pas encore répondu. J'étais en mode mais qu'est-ce que je fais. J'étais trop stressée par
trop
ça.
Trop perdu.
J'ai vraiment quand j'ai vu je crois la réponse en histoire, parce que j'avais été aussi acceptée en histoire à la licence à Amiens, j'étais descendue devant Upar, je fais ils m'ont accepté, je fais quoi, j'accepte ou pas. Mes parents ils sont en mode bah non pas encore, ok. J'étais trop, j'étais là en mode oh je t'ai accepté au moins. Mais là que ça passe. Mais tu trouves que l'accompagnement que t'as eu Axel entre guillemets était quand même un accompagnement plus ou moins bien ou pas, genre en mode ça, c'était quand même utile et tout?
Ouais, c'était utile quand même, parce que tu, même si personne ne s'était au courant de rien, tu sentais qu'il y avait quand même un effort derrière pour essayer de t'aider au mieux.
Ouais. Mais il n'y avait pas... et dans ta team, avec genre, tes potes et tout, genre tout le monde était... Comment, savait ce qu'ils voulaient faire et tout. Est-ce que les gens étaient stressés en général?
On stressait tout un petit peu pour... ça. D'autres, moi, parce qu'elle avait des très bons résultats. J'ai une amie... elle avait quoi, 18 de moyenne. Elle avait tout ce qu'elle voulait.
Ouais, non, mais
donc non, elle ne stressait pas. Mais ouais, donc, du coup, pour celle qui était bien aisée au niveau des moyennes, et encore, j'étais pas mauvaise. J'avais 15 de moyenne, c'était pas mauvais. Mais si t'avais pas 18, tu pouvais être dans le suspense quand même.
Ouais, non mais ouais. Est-ce que vous étiez là en mode, on va tout donner là, en terminale, pour mettre une bonne moyenne de côté, tu vois, et qu'on soit accepté. Vous avez...
Ouais, clairement. Parce qu'en fait, genre, dès le début du lycée, je me suis dit, c'est bien de faire des options et tout, enfin, pour la sélection pour les facs. Et du coup, dès la seconde, j'ai fait... une mention européenne et j'avais fait option droit en terminale.
Ah ouais, non, alors, vous êtes trop déterminés. Des options, je suis en mode, ouais. Mais vous êtes trop fort.
Et du coup, j'avais aussi une bonne moyenne et tout. Enfin, j'essayais en tout cas de beaucoup travailler pour avoir une bonne moyenne. Mm-hmm. Du coup, par rapport à ça, j'étais pas trop stressée non plus.
Et toi, est-ce que t'as mis toutes les chances de te porter, Steph?
Ben, en vrai, en première, du coup, j'étais grave déter et tout, pour travailler à fond et tout. Du coup, ben, ça va, j'avais une bonne moyenne. Et après, en terminale, j'ai commencé à un peu plus me détendre, je dirais. Du coup, je crois que j'étais à 12. Et après, au ça dernier semestre...
Bah oui.
Ouais, ça va, 12. Et au dernier semestre, j'ai eu 11. Et j'avoue que mon 11 du dernier semestre, il m'a un peu fait paniquer. Je me suis dit, ah oui, avec 11, ça va être un peu chaud. Mais en vrai, le dernier semestre, ils ne le prennent pas trop en compte, je crois. Parce que...
Mais tu sais que là, la vibe là, de ne pas prendre en compte son dernier semestre, aide tout le monde dans la classe, je ne sais pas si je te rappelle, tout le monde dans la classe est là en mode, de toute façon, on s'en fout, hein, genre en mode du dernier trimestre et tout, ils ne comptent pas et tout.
Mais bah, c'est comme le semestre de la fac. Hein.
Mais non,
mes semestres, ils ne comptent pas dans mon master. Ah non.
Ouais, ça va.
Alors, let's go.
Oh, là, tu fais ton semestre pour passer à l'année prochaine, c'est tout.
Oh, la fête.
Oh, la fête.
Non, mais oui, les notes de mon master commencent à partir de la L2 et finissent au premier semestre de la L3.
Bah, j'espère qu'on aura des bonnes notes. Hein.
Genre, tu t'étais mise un peu plus chill et tout pour le dernier...
Non, franchement, j'avais pas fait exprès. Ah. Mais juste, ça me stressait. En fait, c'est surtout les commentaires des profs, vous savez, parce que ils peuvent mettre des commentaires.
Les appréciations, là.
Oui. Ah. Et franchement, négligez ça. Mais pour moi, les appréciations, c'est vraiment le plus important après les notes. Tout ce qui est lettre de recommandation et tout, c'est mieux qu'une lettre de... Comment on appelle ça déjà? Une lettre de motivation. Personne va lire votre lettre de motivation. Mais alors les encouragements des profs, ouais, non, mais c'est trop important. Et je me rappelle, j'ai fait des efforts en français et tout. Et j'étais passée genre de 10 de moyenne à... Ça, c'était en première, quand j'étais à fond pour Parcoursup. J'ai passé de 10 de moyenne à genre 14. C'était énorme. Et ma prof, elle avait dit très bien. Ah. Et je suis allée la voir, j'ai dit, comment ça, très bien? Et je lui avais dit, non, mais c'est pas normal et tout. J'attendais genre une meilleure appréciation de votre part et
au
tout.
Moins
elle avait
fourni des efforts
mal
et tout,
pris. Elle avait
juste
dit,
très bien.
La prochaine fois, Esther, tu me dis ce que je dois écrire et tu me l'apportes. Comme ça, je l'écris. Mais elle avait rigolé, tu vois.
Grisant.
Elle avait mal pris, tu vois. Mais moi aussi, j'étais trop insolente. J'avoue que j'aurais pas dû aller la voir comme ça.
Comment ça ?
J'ai pas aimé ce que t'as mis.
Mais un truc qui fait peur, ça, c'est que par rapport aux notes, au taux d'accès et tout ça, c'est vraiment le taux d'accès de mon master.
Alors non. Là, parle ça là. Je sais pas.
Attendez, mais parlez-moi-en. Hein. Moi,
parlez-moi-en, c'est effrayant.
C'est horrible. Il y a des taux d'accès. Bon, il y a des taux d'accès quand même qui sont plus ou moins ça correct.
Ouais,
le maximum, par exemple, c'est 87.
Ouais,
mais sur combien d'étudiants? Expliquez-nous,
bah,
en fait.
C'est sur. C'est comme avec Parcoursup, t'as genre un ils te mettent le dernier, par exemple, rang, le dernier élève qu'ils ont pris. Genre, par exemple, t'es classé 350e et ils t'ont pris. Et ils mettent le nombre d'étudiants qui ont demandé, et il y a 1400 étudiants, tu vois.
Ouais.
Wow. Et le dernier élève, c'est le 350e.
Et juste au-dessus, t'as le taux d'accès.
Taux d'accès.
Et puis t'as la capacité aussi qu'ils prennent. Là, j'ai vu un master, la capacité d'accueil d'étudiants, c'est 3.
La capacité d'étudiants, c'était 0%, là, genre le master.
C'était quel master, ça?
Le master de Lille, attends.
Les masters de Lille, c'est... qui est tout double.
C'est dantesque.
C'est soit le mien, t'as 60% et t'y vas, c'est tranquille, soit t'as 3% d'accès.
Ah bon.
C'est catastrophique, mais ouais, le taux d'accès est terrifiant parce que
c'est le master études numériques et statistiques publiques.
0% là ?
0% d'accès, un étudiant capacité d'accueil.
Lui, c'est l'élu.
Mais c'est ça qui me fait peur en fait. Tu vois, je stressais pas pour Parcoursup parce que je me disais, il y a un moyen bellec que je sois accepté. Là, déjà, il faut un master, c'est quand même spécifique comme, comme demande, tu vois. Genre en mode, c'est quand même très. Par exemple, le master que tu vas faire. Axel,
ouais, ça reste très spécifique. C'est master Sciences Po, parcours métier de l'action territoriale. T'as déjà un.
Ouais, c'est quand
tu
même.
Tu te spécialises quand même de plus en plus.
Tu vas pas faire de la biologie marine, tu vois.
Non.
Genre en mode. Tu vois, il y a des. J'ai vu des masters, par exemple, ça, c'est master islam, islamologie, je sais pas quoi, etc. Mais c'est très spécifique quand même. Mmh. Alors qu'une licence, c'est plus ouvert. Non pas que je dis que le contenu qui sera appris dans le master sera pas ouvert, mais ton diplôme, ce sera ça.
Exactement.
T'as eu un master sur ça, pas un master dans un truc très ouvert.
Non.
Et du coup, c'est ça qui me terrifie en fait.
C'est peut-être pour ça que licence, on a moins peur de pas être pris, parce que licence reste quand même très générale encore.
Mm-hmm. Et surtout la première année.
Surtout la première année. La première année fait bien le tri dans les rangs des amphis. Hein. Mm-hmm. Mais mon master, c'est tu sens que tu arrives vers le bal dans ton noir, quoi.
Et du coup, moi, j'ai peur de pas trouver de master, hein, genre en mode, tu vois, genre je me dis. Je vais, il y a quand même moyen de moyenner, il y a quand même moyen d'être accepté quelque part, tu vois.
Ne serait-ce qu'à Amiens.
Ne serait-ce qu'à Amiens, parce que tu as
une continuité. Gladys, t'as fait les gros yeux, j'ai pas compris.
Non, pas ça. Mais comment ? T'as quand même une continuité et tout dans la formation.
Pas ça, elle a dit. S'il vous plaît.
Et les profs, tu vois, tu les connais quand même un peu. Enfin, tu sais comment ça fonctionne. Tu vois, donc il y a moyen quand même de moyenner et d'être accepté. Après, est-ce que j'ai envie d'être en cours avec
les mêmes professeurs, refaire les mêmes cours
Ah oh là là.
Mais est-ce qu'il y a comment ? Il y a moyen de moyenner.
Il y a moyen de moyenner.
Mais en fait, j'ai juste peur que ce soit pas ce que je veux faire. Mm-hmm. Tu vois, que le métier qui soit, par exemple, donné à la fin, c'est pas ce que je veux faire. Genre en mode. C'est pas. Non pas que je critique les métiers de la collectivité territoriale ou que je critique le fait d'être attaché parlementaire. Pas du tout. C'est juste que moi, en fait, je me vois pas dans ça. Et le problème, c'est que je me suis dit, moi, de base, je veux faire du journalisme et donc, faire des écoles.
Ouais.
Rattacher des écoles. Check les prix des écoles, s'il te plaît, genre en mode... Et je te parle pas des prix de formation, je te parle pas du prix de la formation, je te parle du prix des inscriptions, enfin, juste pour faire les concours.
Oui.
Fucking 275 euros de...
Pour pas t'accepter, il y a
de concours, plus 100 euros d'études de dossier pour pas être accepté.
100 euros d'études de dossier.
Tu payes le fait qu'on regarde ton dossier.
Non, c'est ouais. Horrible, ça.
Et puis même...
Donc, c'est pas...
C'est horrible.
Je peux pas, tu vois, genre en mode, j'ai pas non plus envie, non pas que je critique la ville de Nantes et de Bordeaux, parce que pas du tout, tu vois, c'est très bonne ville.
Très belle ville.
Très belle. Mais c'est juste que je vais pas me retrouver. J'ai fait 3 ans de licence à Amiens, et pour partir à Nantes, où je connais son père, je connais, il y a aucun membre de ma famille, il y a rien du tout, rattaché à zéro personne, genre.
Et l'aventure.
L'aventure.
Et puis forcément, on n'a pas forcément envie de partir très loin non plus. Maintenant, ouais, on est attaché, on a un début de vie ici.
Ouais, non, mais c'est ça, tu vois. Et du coup, ça veut dire aussi tout réadapter, en fait.
Après, ça peut vous rassurer et tout. Enfin, je trouve que ça reste quand même ouvert. Hein. Enfin, même après le master et tout. Déjà, après un master, il y a grave possibilité de faire un autre master. Mm-hmm. Et presque tous mes proches qui ont des masters ont fait 2 masters, 3 masters même. Mm, oui. J'ai genre vraiment...
C'est pas acté, c'est pas
définitif. Chaque année, il fait un master.
Aujourd'hui, on sera dans quoi, là?
Ah, vraiment. Enfin, bref. Du coup, je trouve que c'est utile. Enfin, même si vous faites un master... Après, vous changez complètement d'avis, c'est 2 ans. Enfin, 2 ans, c'est presque rien en soi.
Oui, et puis même en soi.
Donc, il y a toujours moyen de moyenner. Donc,
tu fais la première année, tu te rends compte que tu t'es trompé, et puis au pire, tu vois.
Parce qu'en vrai, c'est vrai, il y a des masters qui acceptent à la deuxième année aussi.
Ouais, non, mais c'est ça.
Plein.
C'est un drôle de délire, ça encore. C'est comme si tu postais sur Parcoursup, mais pour t'accepter en L3.
Mais non, mais ouais. Mais...
Même ma sœur, enfin, je termine juste ça, mais même ma sœur, elle avait commencé un master. Après, elle avait arrêté. Genre, 3 ans plus tard, elle l'a refait, elle l'a eu en chill.
Et si vous deviez choisir un master, est-ce que vous préfériez faire un master de recherche ou un master en alternance?
Moi, ce serait alternance.
Ouais.
En alternance aussi.
Vraiment, alternance, c'est trop bien, on te paye et
on
tu fais des études.
Et tu étudies.
Mais c'est plus facile ou pas en alternance? Enfin,
bah, c'est adapté du coup.
Non, mais d'être accepté. Ah.
Je sais pas.
Après, je sais que tu peux faire des vœux spéciaux sur Pro-Pasteur pour... t'as le droit à 15 vœux licence de formation continue et 15 vœux master en apprentissage. Donc en soi, tu peux...
Ce qui est stressant avec la science politique, c'est que vu qu'on n'a appris à rien faire, bah si tu vois en alternance...
si en fait, faut vraiment pas que les profs de la fac écoutent ça.
Quoi, en fait? Tu vas faire quoi? En mode, c'est trop. Parce que des fois, je me dis, ouais, travailler et tout en tant qu'attaché parlementaire et tout, c'est stylé, tout ça. Après, je vois un petit peu, enfin, je fais un petit peu des recherches et tout sur ce qu'il doit faire et tout. Mmh. Et il y a beaucoup de droits. Et je me dis, mais on n'est pas assez calé en droit pour ça, mais non, pas assez en truc concis. Non, c'est compliqué tout ça, en fait.
Non, mais vraiment.
Ça me fait trop rire.
En fait, chaque matière qu'on fait, on
n'approfondit pas.
Ouais, voilà.
On n'approfondit pas.
C'est encore une critique de la Sciences Po en général, là.
Faut qu'on arrête de critiquer Sciences Po.
Ouais, des ouf. Moi, en vrai, j'aimerais trop trouver un master en alternance, tu vois. Le faire... Trouver quelque chose. Être attaché parlementaire, par exemple, pendant genre 1 an.
Oh, ce serait trop cool.
Avoir de la thune, tu vois. Et cette thune me permettra de faire une école. Mmh. Genre, c'était mon objectif, tu vois. Après, ouais. Je me suis dit, est-ce que je vais envie vraiment de me retrouver encore, enfin, tu vois, refaire des... Enfin, pas des études et tout, mais, tu sais, de rallonger le parcours scolaire, tu vois. Est-ce que c'est ça?
Faut pas que tu le vois comme ça. Après... Ouais. Enfin, j'ai juste dire, faut pas que tu le vois comme ça, c'est quelque chose de... Enfin, c'est pas linéaire, le parcours scolaire et tout.
Ouais, non mais ouais.
Et genre, c'est chill, en fait. Enfin, 2 ans, c'est vraiment rien pour ce que tu vas faire toute ta vie. C'est rien du tout. Mmh. Et généralement, je trouve que les études, c'est toujours plus cool que le monde du travail, genre,
c'est
vraiment.
Sûr.
Donc, faut pas avoir peur de rester assis sur les bancs de l'école.
Ouais.
J'allais dire, si ça te permet de faire ce que tu veux après...
Ouais, non mais ouais. C'est pour ça qu'il faut que je...
Toujours être bénéfique.
Je demande des petits conseils à Guillaume. De son prénom.
C'est qui, Guillaume?
Courti.
Ah oui.
Parce que genre, c'est lui qui m'avait dit de lui envoyer un mail et tout, parce que je voulais faire du journalisme sans passer par les écoles, tu vois, parce que c'est cher. En même temps, je me dis, trouver un taf, c'est important, tu vois, genre pas parce qu'il faut trouver un taf, parce qu'on nous impose un peu l'idée qu'il faut trouver un taf, mais parce que bah, tout est rattaché, en fait, au monde du travail. Genre, en mode, tu peux pas faire pendant 10 ans des études, enfin, pendant 10 ans, tu peux pas faire jusqu'à tes 40 ans des études et après te dire, ok, je serai dans le milieu du travail à 41 ans, tu vois. Parce que bah, la vie, c'est de l'argent, malheureusement. Tout dépend de l'argent.
Après, pour moi, les études, aujourd'hui, c'est vraiment une garantie, dans le sens où c'est vrai qu'il y a 5 ans et tout, enfin, il y avait moyen d'avoir des opportunités sans forcément avoir fait de longues études et encore, genre même il y a 10 ans, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est vraiment important. J'ai l'impression que, justement, le marché, il est de plus en plus sélectif et les études, c'est... Malheureusement, hein, parce que moi ça m'enchante pas, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un indicateur dans le monde du travail aujourd'hui. Et pour moi, alternance, c'est vraiment la bonne combinaison en fait. Genre, c'est les alternants qui sont le plus engagés. Genre, même quand vous voyez les témoignages et tout, t'as beau avoir 18 de moyenne, si t'as aucune expérience, genre ça passera pas en fait.
Ouais, mais donc,
l'alternance, c'est un bon plan de fou en fait.
Ça veut pas dire que si tu fais des études, t'es forcément épanoui dans ce que tu fais. Ou que tu seras épanoui dans ce que tu feras.
Même qu'on trouve un travail après.
Ouais, c'est ça. Genre, en mode déjà... même juste trouver une alternance. Hein. On parle, mais trouver une alternance,
mais
c'est compliqué.
Hein. C'est ça ma hantise, en fait. Ce serait vraiment, après le master, ne pas trouver. Parce qu'il y en a, ils restent au chômage pendant 3 ans, ou après, bah, ils cèdent et ils sont obligés de prendre des trucs qui ont presque rien à voir avec leur domaine d'études, ou qui sont sous-payés et tout, parce que bah, sinon, ils ne trouveront pas, en fait. Et ça, c'est triste.
Mais justement, sur mon master, on voit le pourcentage de personnes qui trouvent un travail dans les, je sais pas, un an après le master.
Et en soi, il n'est pas si élevé non plus. Hein, genre, on a de...
Généralement, c'est 50%.
Qu'est-ce que vous dites là ? Quoi ?
Ouais.
Mais
ils deviennent genre, quoi ces gens-là, du coup ?
Bah, ils sont au chômage, même pas.
Il y a à peu près 20% peut-être. Qui poursuivent leurs études, genre en doctorat et tout. Mais il y a quand même le reste qui... soit en chômage, soit à l'étranger, soit... Enfin, bref.
Mais même si tu fais cette garantie-là de dire « Ok, je vais faire des études parce que bah, il faut faire des études parce que bah, j'aurai un travail avec ça », même avec ça, t'es même pas sûr de trouver un travail, genre.
Ouais.
Et encore, faudrait que le travail te plaise.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
En fait, moi, c'est ça, je veux pas travailler, en fait. Genre, enfin, pas en tout cas...
Yeah.
Pas un truc classique ou je sais pas.
Oui, genre, où t'es dans ton bureau...
Ouais,
moi je veux pas un truc comme ça.
Je veux faire un truc qui a vraiment du sens pour moi, genre vraiment, pitié quoi.
Et en même temps, j'ai envie de faire des études aussi parce que par exemple, les profs qu'on a face à nous, ils me donnent envie de faire des études, tu vois. Et genre, je me dis putain, genre moi aussi j'ai envie d'avoir ces connaissances là, moi aussi j'ai envie d'être pote avec nanana, tu vois, de connaître Bourdieu et tout. Genre,
en mode, il a connu le GOAT. C'est une blague.
Mais du coup, tu vois, genre, c'est des gens, ils me donnent envie de faire des études, tu vois. Genre en mode, parce qu'ils connaissent des choses, parce qu'ils ont fait tellement de choses et tout dans leur vie.
Comme le prof, il a par exemple travaillé à l'ONU, enfin il a fait tellement de choses.
C'est ça.
Enfin, du coup, je me dis, en fait, faut pas se braquer sur un truc. Je sais que je peux grave être attachée parlementaire pendant 2 ans, puis après aller dans une association, puis dire ouais, finalement, j'ai envie de créer ma propre association. Puis, je trouve que je vais créer même un coffee shop, en fait. Je sais pas, moi, je suis chill par rapport à ce que je me dis.
Vraiment, genre...
Tranquille.
Devenir barman en Espagne, ça m'appelle de plus en plus. Je me dis, je fais de l'argent, j'apprends l'espagnol.
Et même les petits trucs pendant 2 ans comme ça, tu vois. Genre, partir pendant 2 ans, vivre telle ou telle expérience. Et voilà, en fait.
Après, moi, ma phobie, justement, par rapport à ça, c'est de me dire, OK, je fais une année sabbatique, je taffe. Je trouve un travail, tu vois, pendant un an ou un truc comme ça. Je fais un truc pendant un an. Est-ce que j'arriverai à me remettre dans le mood des études ?
Mais c'est pour ça, pour moi, ça, c'est vraiment pas pendant les études, vous voyez. Enfin, pour moi... Enfin, après, chacun s'organise comme il veut. Comme je disais, les études, c'est pas linéaire et tout. Mais moi, je me vois pas... Enfin, comment dire ça ? Faire une pause. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, si je commence, je termine d'ici 4 ans, on va dire. Imaginons, je fais 2 masters ou 1 doctorat ou je sais pas, bref, on verra bien. En tout cas, c'est tout d'un coup, genre même si ça prend 11 ans, tout d'un coup, et après, basta. Et justement, après, par exemple, comme monsieur, voilà, mais tu peux changer au cours de ta vie. Enfin, j'ai l'impression que monsieur, il a eu plusieurs vies, en fait. Il a fait tellement de trucs. Et pour moi, c'est ça, en fait, tu finis tes études, voilà, tu travailles 2-3 ans, et après, tu fais ce que tu veux, en fait. Vraiment, j'aimerais qu'on se dise plus ça, en fait. J'ai l'impression que enfin nous-mêmes, et c'est à cause de la société bien sûr, mais on se met vraiment des prisons, enfin on se met vraiment une prison, genre on se dit enfin comme si on était enfermé, mais vraiment je tiens à rappeler que tout le monde peut faire ce qu'il veut et c'est ok. Enfin, en tout cas, c'est un peu bizarre de dire ça parce que ça dépend des moyens, tout ça. Mais je veux dire, en tout cas, nous là, en tant que personnes quand même vachement privilégiées, on a quand même les moyens et les capacités de à peu près suivre ce qu'on a envie de faire. Donc, profitons-en et il ne faut pas trop se laisser manger par la prison.
Mais c'est comme ma sœur, elle a fait une année d'art à Amiens. Enfin, deux ans, je crois. Et elle n'aimait pas trop.
Donc ça.
Et du coup, bah, mes parents et un peu toute ma famille lui ont mis la pression. Ils se sont dit qu'elle perdait un peu... Enfin, comment dire, qu'elle perdait du temps par ouais. rapport à ça. Et là, du coup, elle est en LEA japonais, je crois. Mm-hmm. Et bah, du coup, là, même maintenant, ils lui mettent encore la pression pour lui dire « Ouais, si tu rates, bah, ce serait le moment de travailler et tout. »
Mais là, ce qu'elle fait, ça lui plaît ou...
Oui.
Ok, ok. Mais ouais, en fait, on nous a tellement dit qu'il fallait faire des études dans la vie, en hiérarchisant aussi les études, tu vois, en disant que les licences, c'est mieux que tel BTS, tu vois, nanana, que c'est pour ça, moi, je me dis, en fait, si j'arrête là, je fais un an, etc., bah, j'aurais l'impression de perdre mon temps. Et j'aurais l'impression que c'est pas ce qu'on attend de moi. Donc c'est ça aussi ma phobie, en fait, si je trouve un master. En fait, de faire ce qu'on attend de moi, des études... trouver du travail, tu vois, faire de l'argent, etc. Ok. Mais être heureux, c'est aussi important, tu vois. Et ouais. Je me dis, est-ce que je serais pas plus heureux si je fais rien pendant un an, que je me prends pas la tête, que je stresse pas pour des échéances, juste m'épanouir, découvrir des choses, et après, peut-être retenter l'expérience de trouver quelque chose, tu vois. Why not?
Mais justement, c'est pour ça. Déjà, je trouve qu'il faut pas trop se fermer. Enfin, on est des individus, on change beaucoup... en fonction de ce qui se passe et tout, en fonction des chemins qu'on emprunte, ou même des fois, je souhaite à personne, mais un accident est vite arrivé, on est bouleversé, enfin, on est des êtres qui changent tellement, et ça se trouve, dans 3 ans, je détesterai la science politique, et c'est pour ça que pour moi, c'est presque insensé de s'enfermer dans un domaine en se disant que c'est bon, c'est ce que je vais faire, et c'est tout. Et c'est pour ça que enfin, parfois, il vaut mieux faire les choses par conviction juste que de les faire par appréciation. Genre, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, si je devais choisir un métier, je pense que je choisirais par rapport à des valeurs, parce que des valeurs, c'est quelque chose qui a moins de chances de bouger, vous voyez ce que je veux dire.
Ouais.
Et donc, c'est pour ça que même si ça prend du temps de choisir, ben... il faut quand même prendre ce temps-là, vous voyez. Enfin, vaut mieux ça que de se précipiter dans un chemin qui finalement vous mène tout droit à un précipice où vous vous sentez débordé, etc. Pour moi, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on a tellement de la chance, etc. au niveau de ça. On a de la chance, on a la chance même de se poser la question de quel chemin on peut emprunter, est-ce qu'on peut prendre notre temps, est-ce qu'on peut pas prendre notre temps. Enfin, on a même la chance de juste décider entre ces deux choses-là. Et du coup, je pense que vraiment, comme je disais, vous pouvez faire plusieurs masters, vous pouvez changer au cours de l'année complètement. Enfin...
Mais tu vois, il faut pas avoir peur de faire ça. Comme on m'a tellement dit, ouais, essaye de pas redoubler et essaye de réussir. Que, en fait, j'ai tellement de mal à déconstruire ce truc-là de t'es pas obligé de faire 8 ans d'études pour être heureux et faire ta vie, tu vois. En mode, mais c'est tellement compliqué à déconstruire, je trouve. En tout cas, de mon point de vue. Si tu décides de faire une année sabbatique, t'es vraiment autonome. Genre, personne va être au-dessus de ton épaule et dire, ok, il va falloir que tu fasses ça, tu vois. C'est toi qui fais tout seul ton chemin. Alors que quand tu fais un master, peu importe le master que tu fais, ou en tout cas, quand tu fais des études supérieures, il y a ce truc-là de t'es quand même. Il y a une administration, tu vois, il y a des profs, t'es sur une liste avec des gens, tu vois, genre t'as ton prénom attaché à quelque chose. Mais le truc, c'est qu'en fait, je suis tellement perdue, je sais tellement pas ce que je veux faire. Et là, en fait, il faut trouver dans 2 semaines, quoi. Et je suis là en mode, ok, j'aurais peut-être dû chercher avant, tu vois. Mais comme ce truc-là de si tu fais pas ça, c'est-à-dire que t'es en échec. Alors que je sais que c'est pas le cas, tu vois.
Genre, imaginez que je ne puisse pas faire d'études ou que je m'arrête à une licence, pour moi, c'est inconcevable. Et c'est vraiment pas... alors que je définis pas du tout ma valeur forcément par rapport au diplôme et tout, hein. Mais pourtant, enfin, on m'a tellement élevée dans le fait que les études, il n'y avait rien de plus important. Carrément, mon père, il disait souvent, il y a l'église, après, il y a l'école, genre, tout le temps. Okay. Et même la famille n'y mettait pas avant. Et du coup, mon père, il disait tout le temps, c'est l'église et l'école. Et du coup, pour moi, il n'y a rien de plus important que les études.
Moi, je trouve ça ouf quand même, quand j'ai des potes qui savent ce qu'ils veulent faire, qui ont déjà une idée de métier dans la tête, tu vois, qui ont leur... Je prends le cas de Simon, par exemple, mais Simon, il veut devenir prof. Mm-mm. Et il sait qu'il veut devenir prof.
Mais c'est parce que c'est une passion, genre, c'est une conviction pour Simon, carrément.
Il est grave en conviction, en fait, il sait ce qu'il veut faire et tout, il sait les études qu'il doit faire, il sait le chemin qu'il doit prendre et tout. Par exemple, Gladys, genre en mode, toi, tu sais que tu veux travailler dans l'humanitaire, tu vois. Mm. Donc, t'as quand même le sentier que tu veux faire. Et moi, je trouve ça...
Mais toi, tu sais déjà que tu veux travailler dans le journalisme. En plus, tu dis depuis, genre, des années.
Mais...
Ouais, c'est vrai, depuis la L1.
En fait, c'est juste que les ressources pour accéder à ce métier, genre vis-à-vis du journalisme, c'est il faut des ressources quand même, quoi. Tu vois, il faut des contacts, faut des... J'ai les techniques, tu vois, genre en mode... Genre, je sais faire de la radio, tu vois, genre, c'est pas ça, le truc. Mais c'est juste que j'ai pas les ressources.
Bah, du coup, l'obstacle principal, c'est vraiment les moyens financiers.
La thune. Et c'est pour ça que je me dis, pas travailler pendant un an, faire de la thune, et cette thune me permettra de faire autre chose, tu vois.
Mais pour moi, c'est une excellente idée, en vrai. Enfin, si tu sais que c'est ce que tu veux faire, si tu sais que dans une école de journalisme, t'auras plus d'opportunités, genre... Donne-toi un an, genre c'est pas grave, tu vois.
Toi, ça te fait pas peur, genre en mode...
Les machins, là?
Ouais.
Franchement, moi, je vais où le vent m'emmène, en fait. Enfin, en vrai, j'ai un rêve slash projet un peu, du coup. Et celui-là, il change pas et tout. Ça a toujours été, du coup, de construire une école et tout.
Mm-hmm.
Et...
Travailler avec Gladys.
Mais il y a grave moyen, on se retrouvera, Gladys. Hein. Moi aussi, j'aime bien tout ce qui est humanitaire et tout, mais j'aimerais vraiment bien construire une école. Et je sais que le métier, c'est plus un pont, tu vois. Genre, si je peux donner de ma personne pour aider le maximum de personnes, vas-y, en fait, je me donne à l'humanité et tous ces cadeaux, genre, vraiment. Mais moi, je me ferme aucune porte, hein. Vraiment, je me dis, voilà, ça se trouve, à 30 ans et tout, je serai tranquillement dans un village au Pérou ou au fin fond du Texas et tout.
Oula,
non, je serai pas là-bas. Ouais. Mais en tout cas, je suis chill, genre. Et toi, Grad?
En vrai, en soi, pour l'humanitaire, il n'y a pas vraiment... Enfin, ce serait bien d'avoir un master, mais il n'y a pas vraiment besoin
de
faire 5 ans d'études non plus.
Ouais.
Du coup, je me dis, si j'obtiens un autre master dans un domaine qui, de base, ne m'intéressait pas, c'est pas si grave que ça. Au moins, j'aurai une expérience qui sera peut-être bénéfique après. Donc, j'essaie de pas trop me mettre de pression par rapport à ça.
Il n'y a pas de pression à te mettre, franchement, c'est cool.
Ton ONG permettra de créer l'école d'Esther.
Yes.
Inch'Allah.
Je vous propose en vrai de passer à la deuxième partie de l'émission parce que là, on parle, ça fait déjà 1h15 qu'on parle.
Je fais un petit café et tout, alors je suis tes ressentis.
Genre vraiment là, c'était juste vous et moi.
Vraiment, nos discussions classiques en fait, vraiment.
Vraiment, genre...
Mais c'était trop intéressant de t'écouter, hein, vraiment.
Ah, merci. Du coup, Gladys, pourquoi pas commencer par toi, en fait.
Let's go. Le mois de février, c'est le Black History Month, qui a pour but de commémorer l'histoire des personnes noires.
Black Lives Matter.
Et du coup, pour faire une petite histoire, c'est un mouvement qui est apparu aux États-Unis avec un historien qui s'appelle Woodson. Et en 1925, je ne sais plus, il a créé la Negro History Week. Et du coup, c'était un peu le but de mettre en avant l'histoire des personnes noires américaines. Et du coup, le film que je vais vous présenter, c'est Harriet. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Harriet Tubman. Oui.
Et du coup, il est sorti en 2019 et c'est basé sur l'histoire d'Harriet Tubman. Et on l'a surnommée aussi la Moïse Noire, et elle est incarnée par Cynthia Erivo. Harriet Tubman, elle a été séparée de sa mère quand elle était petite, et elle est devenue...
Je devais le voir, je l'avais mis dans ma liste, pardon.
Et du coup, elle était esclave de personnes blanches au sud des États-Unis. Elle était battue par ces personnes et du coup, elle a développé un traumatisme crânien. Elle disait qu'elle avait des visions et qu'elle interprétait comme des signes de Dieu. Ensuite, il y a l'un de ses maîtres qui meurt et du coup, elle parvient à s'enfuir en Pennsylvanie. Et du coup, elle est affranchie là-bas. Du coup, elle va avoir l'idée de faire des allers-retours d'où elle vivait avant jusqu'en Pennsylvanie pour libérer des personnes de sa famille et d'autres personnes du coup, de la communauté. Elle va libérer des centaines d'esclaves et du coup, elle va les guider vers le nord des États-Unis. Et du coup, ça raconte un peu ça. Du coup, je vous le recommande.
Il est dispo, tu l'as vu sur quoi?
Sur Netflix.
Ok.
Franchement, très bon film, hein.
Tu conseilles, plus, tu recommandes?
Ouais, en plus, elle a participé à la guerre de sécession et tout.
Oui.
En mode
ah ouais?
Incroyable, quelle femme.
On l'embrasse.
Tu nous écoutes, Ariette, on t'envoie des bisous.
Du coup, vas-y, Esther, je te laisse nous présenter ton webtoon.
Je vais présenter un webtoon qui a été écrit par Cynthia AKBP. Donc, c'est son pseudo sur webtoon. C'est une autrice béninoise et moi aussi je voulais un petit peu faire une recommandation qui mettait comment dire en valeur l'ethnicité des afrodescendants à l'occasion du mois du coup et il s'appelle Nos Pré-Mortem. Enfin l'histoire elle est basée en fait sur la mythologie béninoise et l'histoire se déroule dans un petit village où Sérou donc une villageoise tout à fait ordinaire qui était destinée à épouser le prince héritier du village. Parce qu'en gros, elle doit épouser le prince héritier. Mm-hmm. Parce que dans leur coutume, le prince héritier tire au sort au hasard une villageoise dans le village. Et cette villageoise doit se marier avec le prince. Okay. Sérou, qui est de tempérament plutôt... têtu n'a pas envie de ce mariage, donc le jour du mariage, elle s'enfuit. Elle va se réfugier dans le temple du dieu de la mort et sans faire exprès, elle va faire tomber les alliances qu'elle avait emportées avec elle lorsqu'elle s'est enfuie dans
le tombeau.
Oui, dans le tombeau du dieu de la mort qui s'appelle Egun. Et en fait, ça va, sans le savoir, elle va du coup sceller une espèce de pacte avec le dieu de la mort et ils vont se marier. Et donc, on va un petit peu suivre les aventures de Sérou et de Egun. Egun qui est particulièrement bien dessiné. Et donc, voilà, on va suivre un petit peu les aventures de Sérou. Qui va être marié au dieu de la mort, comment est-ce que le roi va le prendre, comment est-ce que le prince héritier va le prendre. Enfin, il va vraiment avoir des bouleversements, etc. L'intrigue, elle est incroyable. Et voilà, c'est vraiment super intéressant. En plus, il y a des points culture sur le Bénin. Donc, l'autrice va mettre en bas de page, on va dire, des petits points culture pour
des
expliquer.
Infos, etc.
Ouais, voilà, pour expliquer un petit peu la culture béninoise. Et du coup, c'est trop intéressant à l'étiquer ça.
Bah, du coup, merci pour cette recommandation, Esther. Ouais. J'ai vu que tu devais nous proposer quelque chose. Tu avais une petite recommandation musicale, Axel. Donc,
C'est ma musique coup de cœur du moment. C'est Would You Fall in Love With Me Again de Epic the Musical, qui a été interprétée par George Rivera, Herranz et Analea. Alors en fait, pour vous expliquer, Epic the Musical, c'est une adaptation du mythe de l'Odyssée d'Homère en chanson. Ils reprennent toute l'aventure d'Ulysse et adaptent chaque partie en une chanson. Donc ça a du coup été créé par George Rivera Herranz. Comme je vais dire, trace toute l'histoire du mythe en passant en découpement en deux axes, répartis en quatre ou cinq sagas. Par exemple, que ce soit Circé, Poséidon ou l'histoire avec le Cyclope, il y a un album dédié à ce passage de l'histoire. Donc pour les connaisseurs et amateurs de la mythologie grecque, c'est très bien, parce que tu retrouves des petits éléments que tu as connus, tu te dis « Ah, ce passage de mythe-là, je ne le savais pas », t'apprends même des trucs. J'avoue, j'ai appris des trucs en écoutant. C'est en anglais, en plus ça vous fait travailler un petit peu votre anglais. Franchement, je suis très pédagogique comme film. Et puis même, outre ça, moi j'ai l'impression de vivre l'aventure. Genre, quand il est sur le bateau avec Poséidon, j'y suis. Et vraiment, la musique dont je vais vous parler, pour être un peu plus spécifique, c'est le passage où Ulysse rentre enfin de son aventure et retrouve sa femme Pénélope. Mmh. Et tu sens tout l'amour, tous les remords, tous les regrets, la douleur d'Ulysse qui se dit « Je suis rentrée à la maison, mais ça fait longtemps que je suis partie et j'ai commis des choses atroces. » Et tu as Pénélope, ah ma Pénélope, elle a tenu le palais. Et là, elle retrouve son mari, elle lui dit « Tais-toi, je m'en fous de ce que t'as fait, je t'aime toujours. Mm-hmm. » Ah, c'est très cucu, c'est très gnangnan, mais c'est trop mignon. C'est ma chanson d'amour préférée pour en ce moment, rien que pour ça, rien que pour Pénélope. Et puis surtout, je vous conseille d'écouter la dernière minute 30 de la chanson, qui est très 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 épique.
Ok. Eh bien.
Franchement, elle me plaît beaucoup et vous pouvez l'écouter partout, que ce soit sur YouTube, sur Deezer, sur Spotify. Vous m'en direz des nouvelles.
Eh bien, en vrai, on peut écouter un petit extrait et tout, vu qu'on a plusieurs recommandations musicales. Donc
avec
je me dis.
Avec plaisir.
Extrait, là, why not?
Ça a l'air trop cool. En tout cas.
Donc c'était l'extrait de ce que tu nous as conseillé, Axel. Moi aussi, je vais rester dans la thématique musicale, etc. Puisque j'ai décidé de vous parler du dernier album de Bad Bunny. Le dernier album, il est intitulé Debí Tirar Más Fotos, et il est sorti en janvier 2025. L'opus et l'album, il rend hommage à la terre natale donc de Bad Bunny, Porto Rico, en fusionnant des genres tels que la salsa, la reggaeton et la plana, donc une musique portoricaine aux racines africaines. Les chansons de l'album, elles abordent des thèmes variés, notamment la nostalgie, les souvenirs, la préservation de l'identité culturelle face à la gentrification. Chacun des morceaux a une histoire. Par exemple, dans Lo que pasó a Hawaii, Bad Bunny exprime ses craintes concernant le développement excessif de Porto Rico et la perte de ses racines culturelles, comparant la situation à celle d'Hawaï. Parce que du coup, pour celles et ceux qui ne savent pas, l'île d'Hawaï, du coup, elle a perdu son identité du fait de l'acquisition des terres agricoles par les businessmen américains, liés à l'industrie sucrière ayant ainsi considérablement influencé la politique locale, jusqu'à renverser la monarchie hawaïenne en 1893, avec le soutien des intérêts américains. La langue locale, elle a été remplacée par exemple par l'anglais, et il y a eu l'arrivée du christianisme sur l'île, ce qui a quand même favoriser l'abandon des pratiques spirituelles traditionnelles autochtones. Et du coup, il fait des comparaisons avec Porto Rico, qui est un état libre américain, qui est associé aux États-Unis. Les Portoricains ont la nationalité américaine, mais ne peuvent pas élire le président. Mais ils peuvent participer aux élections primaires. Ils ont, par exemple, pas de représentant au Sénat, mais peuvent élire quelqu'un en Congrès qui ne peut pas voter. Enfin, c'est vraiment super bizarre, quoi. Et de plus, les États-Unis appliquent des politiques d'austérité sur Porto Rico, ce qui empêche les institutions portoricaines de se développer, de se moderniser. Du coup, il y a beaucoup de précarité des services publics, les gens sont très pauvres, etc. Et c'est du coup ce qui est un peu représenté dans l'album. Et je sais que sur TikTok, beaucoup de gens en parlent de cet album et tout le monde considère que l'été est arrivé avec cet album. En tout cas, les tonalités de la musique sont très cool. Donc si vous aimez justement quelque chose de festif, de reggaeton, etc., vous voulez danser la salsa dans la cuisine, bah, je vous conseille vraiment d'écouter cet album parce qu'il est vraiment trop bien. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Donc allez streamer ça, en fait. C'est très bien.
On va y aller.
Mais oui, donc c'est déjà la fin de cette émission quand même. On a parlé pendant très longtemps, le montage va être très long, I guess. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de revenir à la radio.
Franchement, c'était super cool. Bien, ça m'avait manqué. C'est un petit peu des séances thérapie, tu vois.
Ouais,
il manquerait plus du thé et des petits gâteaux.
La prochaine fois, on ramène du thé et des biscuits, genre. Ah, promis. Mais du coup, on vous souhaite une bonne écoute, comme d'habitude. Je vous mets un petit extrait aussi à la fin de l'un des morceaux de Bad Bunny. Et puis voilà, bonne écoute, bon après-midi, bonne soirée, je ne sais pas. On se retrouve une prochaine fois pour l'épisode. Et il va être très bien cet épisode. On a déjà des thématiques, ça va être très cool. En tout cas, bonne soirée.
Bisous.
Y abrazo las veces que pude. Ojalá que los míos no. Ey, ey, voy a estar con abuelo todo el día jugando dominó. Si me pregunto si aún pienso en ti, ya le digo que no. Que mi estadía cerquita de ti ya se terminó. Ya se terminó. Ey, que prendan la máquina, voy pa' Santurce. Aquí todavía se da caña, chequeate la baby. Diablo, mami, qué dulce. Hoy yo quiero beber, beber, beber. Y hablar mierda hasta que me expulsen. Estoy bien loco, estoy bien loco. Cabrón, guía tú que estás caminando, yo estoy que choco. Estoy bien loco, estoy bien loco. Vamos a disfrutar que nunca se sabe si nos queda poco. Debí tirar el maf. Gente, los quiero con cojones, los amo. Gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí. Cada uno de ustedes significa mucho para mí. Así que vamos para la foto, vengan para acá, métase todo el mundo, todo el corillo, vamos. Zumba. Ya Bernie tiene el nene y ya en la nena. Ya no estamos para la movie y las cadenas. Estamos para las cosas que valgan la pena. Ey, por el perreo, la salsa, la bomba y la plana. Chequéate la mía, cómo es que suena.